nous sommes ici à la plus petite galerie du monde, ou presque, avec une exposition qui est en cours et les artistes qui participent. Bonjour.
Bonjour. Donc moi, je suis Philippe Louguet, je suis peintre. J'expose ici 40 ans de travail. Donc c'est un aperçu de 40 années de peinture. Donc les peintures, il y a ici 78 peintures. Le principe que j'avais pris, c'est au moins une peinture par an, et parfois il y en a plusieurs, donc pour arriver à 78. Et j'ai invité une céramiste, Margot Talleux, qui vient de Saint-Amand-en-Puisaye, donc elle nous vient de Bourgogne, en fait, parce que je trouvais que ces pièces étaient intéressantes par rapport à mes peintures. Et donc on a mis en place une exposition qui fait dialoguer en fait ces céramiques et mes peintures.
Voilà, et vous avez aussi une céramique ici que vous avez, vous, réalisée?
Oui, tout à fait, parce que depuis quelques années, je fais aussi de la sculpture céramique, je dirais. Et en fait, j'ai tenu à mettre une sculpture parce qu'elle fait partie d'un cycle sur des figures en mouvement que j'ai exposé donc avec une encre et une peinture qui montrent bien ce cycle. Voilà, j'ai voulu mettre qu'une sculpture pour ne pas concurrencer le travail de Margot et simplement dialoguer.
Alors vous avez plusieurs œuvres là où on ressent le mouvement. Est-ce que justement la sculpture, c'est aussi quelque chose qui permet de rendre visible, on va dire, le mouvement d'une manière générale et avec des personnages en particulier?
Oui, alors en fait, je pourrais dire, il y a une quarantaine d'années, je travaillais beaucoup sur le mouvement et sur l'énergie. J'étais assez influencé à l'époque par le peintre Francis Bacon. Et à l'époque, je travaillais beaucoup sur l'énergie. Puis ensuite, j'ai travaillé sur des thèmes assez différents, comme l'enfouissement. L'enfouissement qui est très, très présent dans mon travail depuis maintenant une trentaine d'années.
Qu'est-ce que vous entendez par l'enfouissement ?
Eh bien, en fait, là, il s'agit de figures qui sont enfouies dans les couches de peinture. Donc, il y a une espèce de lutte, on pourrait dire, qui se met en place entre la figure et la peinture, entre ce qu'on pourrait nommer la représentation, finalement, et la matière. En fait, ce thème de l'enfouissement, dans mon travail, il est arrivé un peu par hasard, enfin, un peu subrepticement, je dirais, parce qu'en 1994, je peignais en Bourgogne dans mon atelier, et c'était, j'écoutais la radio et c'était en direct le génocide rwandais, et ça m'a beaucoup marqué. C'est ce qui a été le début de ce travail sur l'enfouissement.
Est-ce que l'enfouissement, c'est une façon de pas masquer la réalité, mais de la rendre plus difficile à interpréter?
Oui, c'est surtout, je pense, une manière de... Je parle aussi de la disparence que je pose à l'apparence. C'est une manière de dire que la peinture peut s'intéresser aussi à des choses qui sont non visibles, qui sont plutôt de l'ordre de ce que j'ai appelé la disparence.
Donc l'invisible, ça peut faire appel à des sens qu'on n'a pas forcément, voire à des rayons X ou autres. Est-ce que vous pensez justement que beaucoup de choses nous échappent dans ce monde ?
Oui, il y a toujours des choses qui nous échappent, mais je dirais que c'est heureux, parce que c'est ce qui permet de continuer à aller de l'avant. Si le monde était totalement connu d'une manière définitive, en fait, l'humanité n'aurait plus du tout envie de poursuivre son existence.
Voilà, on peut dire aussi que finalement, la nudité n'est pas ce qu'on croit.
Ah oui, ça c'est certain, oui. En fait, les choses sont parfois plus nues et plus crues, enfouies, ou dans ce que j'ai nommé la disparence, qu'effectivement dans ce qui est représenté.
Si on fait le bilan un petit peu de 40 ans de travail autour de l'art, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette période ?
Ce qui m'a beaucoup marqué, j'irai dans cette période, c'est que ce qui m'habite profondément, c'est-à-dire la peinture, la manière d'exprimer le monde par la peinture et de trouver le monde par la peinture, je dirais, c'est quelque chose qui est rentré en tension avec des modes d'expression plus spectaculaires. Et donc moi, je suis un peu marginal dans cette histoire-là. Hein. Je suis un peu, tout mon travail est un peu contre l'idée du spectacle.
Donc l'art, c'est très divers, on va dire qu'il y a énormément de styles, d'artistes, tout ça, ça crée une société d'artistes d'une manière globale au niveau du monde.
Oui, ça j'en suis convaincu, je suis persuadé, et même si parfois les artistes ont l'air en opposition, moi je suis absolument persuadé que tout cela forme un ensemble, en fait, qui évoque et qui est constamment habité par la question du monde. J'ai coutume de dire qu'il n'y a jamais eu d'humanité sans peinture, ça n'existe pas. Dès que les humains sont apparus sur Terre, ils se sont mis à peindre.
Est-ce que l'art, c'est la meilleure façon de s'opposer à la barbarie, ou est-ce que l'art intègre aussi la barbarie ?
Ben, en fait, l'art va absorber la barbarie pour mieux la neutraliser. C'est un peu ça, je pense, l'expérience de l'art. L'expérience de la peinture, pour moi, j'ai résumé ça récemment dans le terme de peinture crisique, c'est que chaque peinture est une crise dans laquelle, en fait, les éléments extrêmes vont se neutraliser.
Est-ce qu'en 2026, on peut encore parler de la puissance de l'artiste ou de l'art en général pour faire évoluer ou au moins réfléchir sur le monde actuel, passé et futur ?
Ben, je pense que, très sincèrement, je pense que l'artiste est celui qui fait réfléchir d'une manière globale sur le monde, à côté bien sûr d'autres penseurs, du philosophe, etc. Mais je pense que l'art est indispensable pour penser le monde. Je ne pense pas qu'on puisse penser le monde sans l'art. Je pense que c'est quelque chose d'absolument impossible.
Votre cheminement, en fait, avant 40 ans d'expérience et de... de travail que vous avez réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé avant qui vous a amené à l'art, à la peinture et à la sculpture, par exemple ?
Ben, en réalité, je dirais que moi, je suis habité par la peinture et la sculpture depuis que je suis enfant. C'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Alors, il y a des périodes, bien sûr, où je ne peignais pas. Bon, parce que j'ai fait des études d'architecture, j'ai été architecte pendant 40 ans, mais j'ai toujours peint parallèlement à l'architecture. Pour moi, c'est des modes d'expression très, très complémentaires.
Et donc, dans votre travail, on voit des personnages, des visages, pourquoi pas. Qu'est-ce qui les différencie de la photographie, par exemple, parce que vous êtes essayé aussi à la photographie ?
Oui, en fait, je pense que c'est très, très différent. La photographie m'intéresse, mais en réalité, ce qui se passe dans la peinture, ma peinture est toujours liée à la figure. La figure est toujours présente. Elle peut être déformée, transformée, enfouie, etc., mais elle est toujours présente. Pour moi, c'est quelque chose qui tient, je dirais, à quelque chose de l'ordre de l'anthropologie. J'ai été aussi très marqué par le fait que... Alors, je ne sais plus quel anthropologue... Quel chercheur disait que si on présente un visage humain à un singe, il le reconnaît immédiatement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort. C'est la question de l'image, c'est pas une question superficielle, quoi. C'est une question. Là, je suis en train de lire un texte de Didier Burman là-dessus, mais c'est vraiment très très important, la question de l'image dans la mémoire humaine.
Et donc, au bout de 40 ans, quelle est votre réflexion ? Est-ce que vous ressentez un chemin à poursuivre ou des voies qui pourraient éventuellement orienter différemment votre travail ?
Oui, en fait, je dirais que j'ai déjà beaucoup associé la poésie à la peinture. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est une recherche, en fait, sur qu'est-ce qui se passe si on recule la réflexion. Donc l'écriture m'a beaucoup intéressé aussi dans des termes d'écriture automatique. Et j'ai beaucoup associé l'écriture à la peinture. Et là, j'ai envie de poursuivre un peu cette voie, donc de lien entre la poésie et la peinture.
Donc ici, nous sommes à Roubaix, à la plus petite galerie du monde, ou presque. Roubaix, qui est quand même une ville avec un environnement culturel, et notamment au niveau des arts plastiques, assez important. Est-ce que vous pouvez imaginer votre place ici définitive, ou est-ce que vous avez aussi d'autres villes qui vous inspirent ?
Ben, pour moi, Roubaix, j'habite Roubaix depuis très très longtemps. Enfin, j'ai habité un peu ailleurs, mais en réalité, je suis revenu à Roubaix en 1974, donc ça fait maintenant plus de 50 ans que je suis revenu à Roubaix. Et en réalité, j'ai connu Roubaix dans les pires époques, je pourrais dire, c'est-à-dire l'époque de la désindustrialisation totale, où il n'y avait pas pratiquement plus rien. Et Roubaix est devenue une ville d'artistes. Donc ça, pour moi, c'est très important. Très franchement, je suis à Roubaix aujourd'hui parce que c'est une ville d'artistes.
Qu'est-ce que vous pensez de la place des étudiants, pas seulement dans cette ville, hein, mais on pourrait parler de Tourcoing aussi, et les travaux qu'ils peuvent y mener, ce qu'ils peuvent amener à l'art ?
Oui, sans doute. dans le flot, le grand flot d'étudiants de la métropole, puisqu'il y a, je crois qu'il y a 100 000 étudiants dans la métropole, en fait, tous ne s'intéressent pas à l'art, mais moi je suis frappé du fait de voir que à chaque fois que j'expose, j'ouvre toujours chez moi pour la nuit des arts, je transforme le rez-de-chaussée de ma demeure en galerie, rue d'Inkermann, et je suis frappé de voir qu'à chaque fois il y a des étudiants qui viennent. Donc ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il remarque cette offre roubaisienne en fait de l'art et ça les intéresse.
Voilà, donc Roubaix, la plus petite galerie du monde et j'allais dire pas seulement puisque dans ce lieu sont venus beaucoup d'artistes depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Hein. Donc ce moment particulier qui vous est attribué, on va dire, comment vous le ressentez ?
Pour moi, c'est important parce que j'avais envie de faire une exposition rétrospective, donc d'exposer 40 ans de peinture. Donc ici, c'est le cas, j'expose 78 peintures qui représentent 40 années. C'est à peu près le 30e de ma production et c'est quelque chose que je ne peux pas faire chez moi. Chez moi, je peux exposer une trentaine de peintures, mais pas plus. Et donc pour moi, c'est important d'exposer ici, même si effectivement, c'est près de chez moi. Et c'était une manière aussi de continuer à m'ouvrir en fait à Roubaix à travers la plus petite galerie du monde, ou presque, créée par Luc Ospier, il y a maintenant d'ailleurs 30 ans, parce qu'on a fêté les 30 ans à la fin de 2025.
Et est-ce que vous jugez qu'en tant qu'artiste de Roubaix, mais pas forcément que, le rapport aux autres artistes de la région, alors je vais dire Hauts-de-France, est important ou non ?
Oui, mais pas que de la région. Moi, j'expose, lorsque j'ouvre ma maison pour la Nuit des Arts, j'essaye toujours d'exposer des artistes qui soient hors région, précisément. En décembre, j'ai exposé des sculpteurs de Nancy. J'ai exposé en avril une peintre de Normandie. Donc voilà, c'est pas uniquement la région. Pour moi, je me définis pas comme artiste roubaisien. Je suis très content que Roubaix soit une ville d'artistes. Bien sûr, je suis un artiste roubaisien, mais je me définis avant tout comme artiste globalement, quoi, et connecté à plein d'autres artistes, en tout cas en France.
Donc j'imagine que dans votre démarche, la rencontre, c'est forcément essentiel.
Oui, c'est certain. C'est certain. Et en fait, j'expose aussi des gens, des amis, j'expose des gens que je connais pas. Et à cette occasion, je fais leur rencontre. Et là, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, l'exposition, c'est avec la céramiste Margot Talleux que je ne connaissais pas. Je l'ai fait venir donc de Bourgogne, de Saint-Amand-en-Puisé, mais je ne la connaissais pas. Je connaissais son travail. Et donc, ça a été une très belle rencontre.
Donc pour connaître le travail des autres, il y a maintenant plein de médias qu'on peut consulter. Pour vous, quels seraient les plus intéressants, les plus faciles d'accès, qui permettent de rendre compte vraiment du travail d'un artiste extérieur à la région ?
Ah, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. En fait, moi, je suis, comme je pense beaucoup de monde, sur Facebook, Instagram, sur ces réseaux. Mais c'est vrai qu'on découvre des gens par ces réseaux. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est assez complémentaire parce que Instagram, c'est quand même surtout l'image. Et Facebook, sur Facebook, on peut quand même peut-être approfondir un peu, expliquer un peu mieux sa démarche. Donc pour moi, c'est complémentaire.
Vous parliez tout à l'heure de la Nuit des Arts qui se passe à Roubaix. Comment vous voyez aussi le rôle de Art Up, par exemple ?
Art Up, en fait, c'est les galeries, hein, c'est une foire de galeries. Et donc, les artistes sont Art Up lorsqu'ils sont portés par une galerie, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis libre de galerie. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, pour l'instant, j'ai jamais intéressé une galerie.
Voilà. C'est un regret ou une volonté d'affirmation d'autonomie ?
Non, pas du tout. C'est un peu un regret parce que, honnêtement, quand on est porté par une galerie, au niveau de l'organisation, c'est beaucoup plus simple. Moi, aujourd'hui, je dois tout organiser moi-même, donc c'est un peu plus compliqué.
Avec, bien sûr, je ne vais pas dire la bienveillance, mais l'intérêt que vous porte Luc, donc Ospier.
Oui, bien sûr. Non, mais Luc, c'est particulier. J'avais exposé ici en 2004, donc ça fait près de 22 ans. Et Luc est c'est quelqu'un qui est resté proche et qui, pour moi, est quelqu'un qui fait un travail vraiment important dans Roubaix. Donc, je reconnais tout à fait ce travail et je suis tout à fait, j'adhère tout à fait à ce travail. Mais c'est pas du tout, incompatible avec la possibilité d'exposer dans une galerie, j'allais dire, ordinaire, enfin libérale. C'est complémentaire pour moi.
Alors justement, ces galeries libérales, j'imagine qu'elles ont un facteur économique important qui intervient, et le marché de l'art qui nécessairement s'impose d'une certaine manière à ces galeries. Comment voyez-vous la relation justement entre l'artiste, les galeries et le marché de l'art?
Ben, en réalité, c'est ça tout le problème. C'est-à-dire qu'il faut intéresser des amateurs. Les galeries, elles essayent de comprendre ce qui peut intéresser leur réseau de collectionneurs. Et donc, elles exposent ce qui intéresse leur réseau de collectionneurs. Et je reconnais qu'en France, aujourd'hui, il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de galeries, au niveau national, hein, une dizaine de galeries qui sont proches de du travail que je fais. Il n'y en a pas plus, en fait.
Après, il y a des galeries qui sont peut-être plus proches des fracs, cac et autre chose. Comment vous voyez ce rapport de l'art à ces structures et puis au marché de l'art?
En fait, c'est assez complexe parce que ce qui a été initié au niveau national il y a longtemps, à l'époque du FIAC et des FRAC, c'est un certain point de vue de l'art, bon, ce qu'on a appelé l'art contemporain, mais qui est surtout de l'art conceptuel. Donc c'est parti de ce point de vue-là, même s'il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Et en fait, le problème, c'est que ça a constitué une espèce de bulle dans le milieu de l'art qui n'a pas du tout innervé l'ensemble de ce qu'on appelle les arts plastiques, en fait. Et ça, c'est un peu délicat comme problème, je pense, parce que on aurait pu espérer effectivement que les fracs, que la FIAC, etc., s'intéressent à d'autres formes d'art que ce qu'elles portent actuellement. Alors, c'est pas du tout une critique à ce qu'elles portent, hein, qui est intéressant. Moi, je suis pas du tout dans l'opposition, mais au contraire dans l'intégration. Je pense que l'art a une multiplicité aujourd'hui qui doit être reconnue.
Vous parliez de bulle, est-ce qu'on pourrait parler d'une certaine manière d'une bulle spéculative ?
Oui, alors ça c'est certain, j'avais écrit là-dessus d'ailleurs un petit texte sur la glorification du prince par l'art, qui est une vieille histoire, c'est une histoire qui date, on pourrait dire, au moins du XVIe siècle. En fait, l'une des fonctions de l'art a été la glorification du prince, et je pense que ça c'est quelque chose de très présent aujourd'hui à travers les nouveaux princes, on pourrait dire, et les nouvelles méthodes de glorification, ça c'est certain.
Est-ce que le premier prince de cet art soi-disant nouveau, ce serait Duchamp ?
Bah, en fait, Duchamp, c'est un personnage extrêmement ambigu. Je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que c'est un personnage très, très ambigu qui, effectivement, a mis en place des systèmes qui, dans son esprit, étaient des systèmes de destruction, hein, du milieu artistique. Puis en même temps, il n'a jamais cessé de porter la peinture. Donc voilà, c'est un personnage beaucoup plus ambigu que ce qu'on pense aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à décrire Duchamp comme le premier et exclusif conceptuel, alors qu'en fait, il n'était pas ça. D'ailleurs, dans une interview de Duchamp, je crois que c'est en 62, on lui pose la question, on lui dit « Mais voilà, vous avez cessé de peindre », et il a dit « J'ai jamais décidé de cesser de peindre ».
Est-ce que, justement, cette ambiguïté de l'artiste, voire même de l'art, c'est pas ce qui fait sa beauté ?
Si, sans doute. Moi, je suis pas. Encore une fois, moi, ce qui me semble vraiment important, c'est de reconnaître toutes les dimensions de la peinture, puisque je suis peintre, c'est de reconnaître toutes les dimensions de la peinture et de comprendre qu'en fait, elles ne sont pas. Moi, j'ai une vision très complémentaire de ça. Je pense en particulier que la manière dont les esthétiques varient. Parce qu'évidemment, les esthétiques varient. On sait bien que ce qui est reconnu aujourd'hui comme esthétique n'est pas forcément ce qui était reconnu il y a 50 ans. Et la manière dont les esthétiques varient, ça s'appuie sur tout le travail des artistes, quels qu'ils soient, des petits artistes, des grands artistes, des artistes médiocres ou pas. En fait, tout ce travail fait émerger des esthétiques systématiquement.
Est-ce que la France est encore un grand pays d'art où les différents styles sont, sinon représentés, du moins en action et en présentation?
Ben, je pense que les choses sont en train de bouger. D'abord, je pense que la France reste un grand pays d'art, mais je pense aussi que les choses sont en train de bouger, c'est-à-dire que les institutions aujourd'hui commencent à revenir aussi à la peinture. Ça, c'est une réalité. On l'a vu lorsque Beaubourg a exposé Garouste, ce qui était quand même une grande première. Et je pense que ça, c'est assez important, parce que ça commence à être une reconnaissance de la diversité, précisément, des expressions artistiques.
Voilà, donc au bout de 40 ans, on peut encore être optimiste.
Ah oui, sans doute. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix. De toute façon, pour moi, l'optimisme, c'est une espèce d'obligation. même si moi j'ai travaillé sur des thèmes très durs, quand les gens viennent voir ma exposition, ils trouvent qu'il y a des choses dures. Mais en fait, pour moi, c'est l'humanité qui s'exprime. Et quelque part, on ne peut qu'être optimiste parce que sinon, l'humanité est perdue. C'est un peu ça l'histoire.